Chapitre 2. Ce qu'ont pu endurer les équipages des grands vaisseaux armés de guerre du temps de cette satanée marine à voile ne sera jamais bien connu, puisque les illettrés n'ont pas d'histoire. Et moi-même, affligé par l'horreur des réminiscences, j'ose à peine y faire allusion, crainte de ne pas être tout à fait cru. Pour la plupart de ces infortunés enfants, la couronne, c'était l'enfer de Dante, les 120 journées de Sade, un radeau de la Méduse où l'air lui-même aurait manqué. Et de cela, personne n'était responsable, on ne pouvait faire autrement. Les fonds étaient le domaine du lest, les cales et les soutes étaient pleines, les faux-ponts inférieurs étaient occupés en majeure partie par les nombreuses glaines des énormes et interminables cales d'ancre. Force était de loger la quasi-totalité de l'équipage dans les trois batteries superposées, où les hamacs étaient crochés ou décrochés selon les heures et les circonstances. Tel était le sort de 800 hommes sur 860, l'effectif maximal théorique n'ayant pas heureusement été atteint. Mais ce dérisoire espace disponible était réduit de 2/10 par les cabines de toile qui avaient été montées à l'arrière des batteries au profit d'une quarantaine d'officiers subalternes ou sous-officiers privilégiés, cabines qui étaient alors démontées en cas de bataille. Compte tenu du volume des 120 canons et des larges bits d'amarrage et de la batterie basse, nos 800 hommes disposaient environ de 1600 mètres carrés pour employer une mesure française internationalement connue, 2 mètres carrés par individu. La promiscuité était donc inimaginable, d'autant plus éprouvante que les canonniers ou fusillés n'avaient d'ordinaire aucun motif de monter sur le pont où ils eussent gêné la manœuvre de 150 matelots qui s'y succédaient par quart si le mauvais temps n'exigeait pas davantage. Dans l'espace immesuré de cette prison flottante, il fallait manger sur le pouce, et la nourriture, objet de permanente privation, était infecte. Le bœuf, assailli de grosses mouches bleues ou vertes, grouillait d'asticots qui n'appâtaient personne. Le porridge sentait le moisi, des cadavres momifiés de souriceaux peuplaient le pain de munitions. Les haricots charçonnés et les lentilles rocailleuses étaient arrosées d'eau croupie, tandis que le spectre endémique du scorbut emplissait les dents creuses qui tenaient encore aux gencives malgré les efforts d'un fromage dur comme brique dont les rats s'étaient dégoûtés. Là encore, il fallait dormir. Mais si trêve par lassitude les honteux allaitements des onanistes ou les agressions odieuses des sodomites, toujours étaient sur la brèche les 24 filles de rebut dont la terre ingrate avait refusé de connaître plus longtemps les charmes et qu'une amirauté paternelle avait mise à la discrétion de 800 héros trop souvent désœuvrés. L'agitation lubrique n'en finissait plus. Là encore, dans cet espace de famine, d'insomnie et d'obscénité, il fallait ou non accomplir ses besoins naturels selon les caprices du baromètre. Si le temps se gâtait, on se servait de baquets dont les matières éclaboussaient les alentours et le mal de mer ajoutait à l'infection. Par temps beau ou passable, les instructions étaient d'utiliser les traditionnelles poulaines de Beaupré. Autrement dit, nous allions nous accroupir à l'extrême avant du navire, au-delà même de l'étrave, en un endroit battu par les vents et par les flots où une superstructure acrobatique permettait de se cramponner devant un vide vertigineux. Et les dents serrées, l'un après l'autre, nous laissons choir dans l'océan nos étrons qui glissaient mollement entre les seins orgueilleux de la figure de proue. Codrington trônait sur une chaise percée qui passait pour avoir été celle de Nelson à Trafalgar, alors que les officiers et les résidents des cabines de toile se soulageaient élégamment à partir du balcon inférieur de poupe. À bord de la couronne, la défécation même était hiérarchisée avec soin. Ces poulaines de Beaupré étaient si dangereuses de nuit ou par temps douteux que nous y perdîmes un mousse épileptique à la hauteur de Cadix et un gros habit rouge dans les eaux de Malte. Par mer calme, en revanche, la promenade du Hirn des Poulaines était une occasion appréciée de respirer l'air du large. Et progressant vers le perchoir à la queue leu-leu, nous faisions durer ce très relatif plaisir. En somme, dans cet univers paradoxal, on ne s'arrêtait bien qu'au lieu d'aisance. Et les filles elles-mêmes, pour échapper un instant à la fornication, au vacarme, à la puanteur, au confinement des batteries, se laissaient parfois tenter par les Poulaines. Dans ce cas, il y avait toujours un luron pour taquiner d'une gaule alerte les fesses en travail de la garce, qui semblait soudain une grosse boussole dirigeant la couronne sur un lupanar inaccessible et onirique. La grossièreté de cet équipage était renversante, comme si toute la lie des ports d'Angleterre se fût donné rendez-vous chez Conrington. Je n'ai vu nulle part ailleurs une pareille collection de brutes chevronnées, d'imbéciles imprévisibles, d'hébétés ou d'agités, de pervers, de maniaques, d'obsédés, de minus abènes. C'était une cour des miracles. Dans les choses du service, une discipline mystérieuse et tatillonne faisait appel à des châtiments barbares et le chat à neuf queues sifflait. Hors service, c'était bien pire, car les plus vigoureux et les plus méchants, comme au Harlabour, imposaient leurs lois sadiques aux plus débiles et aux plus timides. Et dans ce monde clos, lequel était déjà en soi une brimade perpétuelle, les novices, dont je faisais partie, étaient naturellement accablés de brimades supplémentaires, qui faisaient de leur jour un constant martyre. Le matin de notre départ, passé le cap Northumberland, nous fûmes en butte à un fort vent d'ouest qui nous infligea un pénible roulis. Je reviens à moi, les tempes serrées par la migraine et avec l'impression que ma couche allait à la dérive. J'étais effectivement dans un hamac de la batterie basse, la plus encombrée, la plus fétide, la plus malsaine vue, que la gîte et les paquets de mer y interdisaient toute aération efficace et tout éclairage naturel durant les longues périodes d'intempéries. Et là, sous la lueur tremblotante de chandelles nauséabondes, des apparitions d'outre-tombe, vomissantes ou diarrhétiques, se disputaient à coups d'injures hors du rire des baquets regorgeants et débordants d'immondices, tandis qu'un vieux loup de mer au poil mité, insensible à toute autre agitation, copulait avec une fille cadavérique contre l'une des grosses bites qui servaient à câbler les câbles d'amarrage lorsque la couronne était à l'ancre. Je demeurai un moment ahuri par ce cauchemar imprévu. Nous fabriquons nos rêves, ces déchets de notre activité cérébrale, avec les produits de notre expérience. Mais le cauchemar, du simple fait que je n'aurais pu l'imaginer, était vrai. J'ai cru en perdre la raison. Dans les jours qui suivirent, au cours des brefs répits que me laissait un atroce mal de mer, je travaillais à me faire rendre justice. Mais les officiers demeuraient intouchables dans ce sanctuaire du gaillard d'arrière, oasis aristocratique de luxe, de calme et de volupté, ou sur cet Olympe de la Dunette, d'où les ordres nous étaient transmis par une cascade d'intermédiaires de plus en plus obtus et indifférents. On me fit d'ailleurs saisir toute la vanité de mes efforts. Il devait y avoir quelque part, sous un presse-papier, un acte héroïque d'engagement à mon nom, signé d'une croix pour prévenir toute réclamation légale. Toutefois, l'usage étant, par mesure d'économie, de dégonfler les effectifs au sortir d'une campagne, je pouvais espérer un assez proche congé si j'avais l'heure de survivre à ce bagne extravagant. Ma survie était hélas hypothétique. Je risquais de périr, ou de devenir idiot, par incapacité d'adaptation. J'aurais dû au moins faire semblant d'être aussi grossier que les autres, mais je n'étais pas doué pour cet exercice. Je ne pouvais dissimuler mes mains blanches et mes ongles soignés, ni corriger l'élégance de ma diction, ni surmonter une sensibilité à fleur de peau, et dans un tel milieu, j'étais une provocation permanente à l'insulte gratuite et au mauvais traitement particulier. Le sommet de mon calvaire fut atteint durant l'épouvantable tempête d'équinoxe, qui faillit nous drosser sur les grèves du Portugal par le travers du cap Saint-Vincent. Lorsque l'homme a poussé à bout ses services, la fureur de l'océan se fait charge d'en rajouter. Pourtant, le danger immédiat de perdition rattache à la plus misérable des existences. Plutôt que de m'abandonner à une prostration, à un désespoir stérile, je me mis en devoir de durer, et même de réfléchir aux conditions de mes épreuves et aux moyens de les adoucir. C'est à bord de la couronne que j'eus pour la première fois l'occasion de méditer sur le mécanisme de la sélection naturelle, dont la sélection sexuelle est un des aspects les plus importants. Dans cette jungle ambulante, gouvernée de toute évidence par des lois animales, les mieux adaptés étaient les plus costauds, les plus rablés, les plus agressifs, pourvus d'une grosse dose suffisante de ruse, d'hypocrisie et de mensonges, les garantissant d'une imprudence fatale. Ces animaux-là s'engraissaient sur la ration des autres, dormaient du sommeil des autres, déféquaient à la place des autres, faisaient faire leur travail par les autres, avaient le monopole des femelles et des gitons, et ils traînaient leurs parasites complaisants comme le requin son rémora à ventouse. En dehors de cette clique, on maigrissait, on ne dormait que d'un œil, on faisait dans son froc, on vivait à quatre pattes pour gratter les ponts et l'on s'abrutissait d'onanisme. J'ai fait alors cette réflexion pessimiste que l'effet de la civilisation était ambigu. Tantôt, les lois favorisent jusqu'à l'outrance le jeu de la sélection naturelle au profit des plus riches, des plus forts, des mieux portants et des plus malins. Tel est notre bon vieux libéralisme britannique, dont les trois batteries de la couronne offraient au fond une horrible mais fidèle image. Tantôt, les lois prétendent au contraire atténuer les effets de la sélection naturelle à l'avantage des plus faibles et des plus déshérités. Mais si de pareilles lois devenaient jamais efficaces, le progrès des sociétés serait à la charge des moins aptes. On pourrait dès lors s'attendre à un surcroît de malheur, la sottise plébienne venant en renfort de la cruauté universelle. Passé Gibraltar, nous reçûmes les vents d'ouest par l'arrière. L'odieux roulis fit place à un tangage d'une certaine amplitude et notre marche s'accéléra. Début octobre, la couronne rejoignait en mer ionienne le gros de l'escadre alliée. J'avais perdu 15 livres, pris une mine basse et furtive, mais obtenu la protection, en tout bien tout honneur, d'un caporal musculeux mais impuissant que j'avais persuadé de faire rédiger ses mémoires. Si les Turcs ne me mangeaient pas, j'avais quelque chance de revoir l'Angleterre, de donner dans des salons accoudés à la cheminée une version piquante mais édulcorée, supportable, de mes romantiques exploits sur les mers qu'avaient jadis sillonné les galères de la Sérénissime République et les trirèmes de Thémistocle. L'histoire n'est bien reçue que si elle flatte les préjugés dominants comme un feuilleton de gazette. La première démarche de l'historien consciencieux est d'aller sur place mettre la vérité toute nue. La seconde est de la voiler en rentrant. L'escadre anglaise de Codrington, l'escadre russe de Haydn, l'escadre française de Rigny avaient en principe reçu mission de rétablir la paix dans les eaux grecques en vertu du traité de Londres du 6 juillet précédent. Armistice auquel les Turcs, encouragés par l'Autriche, refusaient de se soumettre. Mais les instructions particulières de Codrington, si elles admettaient les manœuvres d'intimidation, lui prescrivaient rigoureusement de ne rien faire qui pût jeter l'Angleterre dans un conflit ouvert avec la porte dont les Russes ne manqueraient pas de tirer bénéfice. Et le cabinet de Londres était d'autant plus rassuré que l'amiral Codrington avait autorité suprême sur les opérations. Durant 2 semaines de négociations dilatoires, nous croisâmes à la paresseuse toute bonnette dehors parmi ces îles ioniennes que les Anglais avaient définitivement arrachées aux Français par les traités de 1815 et qu'ils devaient conserver jusqu'en 1864. Les vents d'ouest étaient tombés. Une brise molle et indécise nous caressait. Le soleil était radieux. La mer avait des tiédeurs d'automne qui rappelaient notre été d'Angleterre. Mais nous n'en profitions guère, car les exercices de jambes en l'air et d'artillerie à blanc se succédaient. Avec ces grotesques jambes en l'air, l'obscénité la plus révoltante nous poursuivait jusqu'au cœur de nos travaux guerriers. Conséquence du caractère mixte des équipages dans la marine de guerre britannique de l'époque. Quand on hurlait ce commandement, l'équivalent du branle-bas de combat français, où il s'agit de jeter à bas les branles, c'est-à-dire les hamacs, Les personnes couchées dans les batteries mettaient précipitamment une jambe en l'air afin que les sous-officiers de service puissent distinguer d'un coup d'œil ou d'un revers de main le sexe des intéressés. Aucune tricherie n'était alors réalisable. La méthode était d'ailleurs plus rapide que n'eût été celle d'un appel nominal. Et il n'était pas possible de pratiquer autrement. Ces coquines de filles allaient et venaient au hasard des requêtes ou des réquisitions, et l'on ne savait jamais trop dans quelle branle elles s'étaient fourrées. Vers la mi-octobre, les Turcs se refusant décidément à déguerpir, Codrington ordonna en soupirant de mettre le cap sur Naravin, dans le sud-ouest du Péloponnèse, pour y bloquer les 90 prisonniers hétéroclites et mal montés de la flotte turco-égyptienne d'Ibrahim au mouillage dans la rade. Nous étions devant Navarin le 18 octobre. On négocia encore 2 jours durant, puis le 20 octobre, une brise favorable s'étant levée dans un ciel sans nuages, Codrington, poussé par Hayden et Derigny, commanda imprudemment aux 3 escadres de pénétrer dans la rade pour négocier de plus près, et un vrai jambe en l'air fut décrété par tout hasard sur la couronne. Nos sabords se levèrent bientôt sur une mer calme et limpide, et l'on entreprit d'armer des canons pour ne pas être pris au dépourvu. J'étais affecté à une pièce de bâbord arrière, et j'avais la charge de la platine à silex qui avait remplacé l'ancien bout de feu. Peu à peu, grossissait la flotte d'Ibrahim dans nos sabords, et il ne semblait pas que l'amiral turc fît grand-chose pour nous recevoir de façon inamicale. Se doutant bien des instructions et intentions de Codrington, confiant dans son étoile et plus encore dans la sagesse raisonnée de l'Angleterre, il demeurait impavide devant le bluff, en dépit de la faiblesse de ses forces, prises au mouillage comme dans une souricière par des escadres modernes. De notre côté, nul ne s'attendait à une bataille, et pour la meilleure des raisons, la ration exceptionnelle de rhum, qui vieillissait doucement depuis le lendemain de Trafalgar, n'avait pas été distribuée. Le moment arriva où la couronne, qui s'avançait avec une majestueuse lenteur, fut à portée de voix du Trébizonde, navire amiral d'Ibrahim, un 78 canons délabré à faire pitié. Sur la dunette du Trébizonde, c'était une magnifique accumulation de turbans abrités par un dais de pourpre. Répandus sur des coussins ou sur des tapis, l'état-major turc regardait se déhancher 3 bayadères pléthoriques au son d'une musique aigrelette, tandis que tournaient les broches des agneaux de lait, que montaient dans l'air matinal les fumées des cassolettes brûle-parfum et des braseros brûle-côtelettes, parmi les plats d'argent bourrés de friandises et de raaloukoum. L'amiral, un petit loulou de Poméranie sur les genoux, détourna un instant son attention du nombril des bayadères pour agiter gracieusement la main vers les salons de Codrington qui dominaient sa dunette de 20 pieds. On eût dit qu'il y invitait les hôtes étrangers à sa collation. Devant cette scène de courage tranquille, les canonniers affamés de la couronne poussèrent instinctivement des hurrahs en l'honneur de la vaillante flotte turque. Jusque-là, tous les historiens sont d'accord sur les moindres détails. Comment, à partir d'une invitation si sympathique et si conforme aux vœux secrets du cabinet, en est-on arrivé à la boucherie de Navarin ? À l'heure où j'écris, le point est encore l'objet de vives controverses parmi les honorables spécialistes des affaires militaires et navales. Qui a ouvert le feu ? Pris bêtement de contagion comme sur le quai de Tilbury, je poussais moi aussi de vibrants hurrahs, joignant même le geste à la parole. C'est ainsi que la manche de ma vareuse accrocha et rabattit le chien de ma platine et le premier coup de canon partit. Par bonheur, la pièce n'étant pas pointée, le boulet passa au-dessus de l'état-major turc stupéfait pour aller abattre le mât d'Artimon de la corvette russe Volga qui se promenait à l'arrière-plan. La Volga, dont les officiers étaient gris et l'équipage complètement noir, riposta à tous ses feux et un boulet perdu s'en vint casser, entre autres, un superbe Wedgwood fixé sur le bureau de Codrington. L'engagement fut aussitôt général. En moins de 2 heures d'horloge, les turco-égyptiens avaient perdu 3 vaisseaux, 16 frégates, 26 corvettes, 12 briques et même 5 brûlots, tandis que 6 000 de leurs hommes, dont un bon nombre d'Albanais, étaient hachés menus, calcinés ou noyés. Le Trébizonde, foudroyé à bout portant, fut l'un des premiers bâtiments turcs à sombrer, et on peut le voir en flammes sur le tableau de Sir Thomas Luny. Sur le même tableau est représentée la couronne côté bâbord. Mon petit Sabor est le dernier visible en bas à droite. Je n'oublierai jamais le spectacle qu'offrait cette baie de Navarin après la tuerie, ces milliers de malheureux à la mer qui appelaient à l'aide sans qu'on pût les secourir. Les uns au fur et à mesure que leur monumental turban se remplissait d'eau comme une éponge piquée du nez. D'autres, le crâne rasé et les moustaches en bataille mais empêtrées dans leurs robes, coulaient à l'horizontale. D'autres encore, entraînés par leurs pantalons bouffants, coulaient tout droit après un ultime geste d'adieu. La tenue la plus pratique pour le combat naval, c'est le caleçon de bain. L'histoire présente peu d'exemples d'un accident plus absurde. La seule leçon qu'on en puisse tirer est que, si l'on ne veut pas se battre, il est préférable de garder ses distances. Mais les militaires aimant jouer à se faire peur, il y aura bien d'autres Navarins. On sait que le gouvernement anglais s'est empressé de qualifier cette peu glorieuse victoire d'événement malencontreux, et ces deux mots, si diplomatiquement choisis, ont fait le désespoir de notre amiral, mais redonné courage aux Turcs contre les Russes. Après la bataille, la couronne et quelques autres bâtiments plus ou moins avariés ont remonté la côte en direction de Corfou, où se trouvait un arsenal très secondaire, mais capable d'assurer la plupart des réparations. Chemin faisant, j'aurais pu songer aux conséquences des progrès techniques qui mettent aux mains d'un seul individu les moyens sans cesse plus effroyables de peser par pur accident sur le cours de notre histoire. Mais je ne songeais qu'à mon avenir immédiat, et mes angoisses devenaient d'autant plus lancinantes que la décision du commandement se faisant attendre à mon égard. En fait, l'amiral, dans le doute où il était encore sur les réactions du cabinet, devait être aussi ennuyé que moi. Ce n'est que le 22 octobre, au soir, que Codrington se décida enfin à faire distribuer la ration exceptionnelle de rhum qui était devenue l'idée fixe de l'équipage. Je n'ai pas vu Corfou. Ce même soir, la tête embrumée de rhum, pris dans une faiblesse vertigineuse, j'avais glissé des poulaines dans une mer d'huile sous un faible clair de lune.